Chapitre 4. La rouge goutte de sang pèse plus que la mère en colère. Oui, monsieur Bénédic, oui, c'est comme je vous le dis, il se passe là des choses qui n'est pas naturelles. Quand je vous ai aperçu ce matin traversant leur salle à manger, j'ai voulu me jeter sur vous pour que vous ne passiez pas tant, je craignais un malheur. J'ai cru un jour qu'ils allaient me dévorer parce que je m'étais rendu dans le jardin sans leur permission. Pire que des sauvages, je vous dis, pire que des sauvages. Ils veulent personne, personne autour d'eux. Je suis même étonné qu'ils fassent venir une femme de ménage, mais il y a des choses que la demoiselle peut pas faire. Elle peut pas laver la vaisselle, par exemple. Ça la répugne, cette poupée aux mains de grande madame qui a pas le sou. Car ça n'a pas le sou, hein, et c'est fier comme si ça n'avait pas tout vendu pièce par pièce. J'ai vu filer l'argenterie, moi, des morceaux qui dataient pas d'hier, pour sûr, des souvenirs de famille et des tableaux et des meubles. Depuis 3 ans, ça se vide là-dedans, et comment, et pourquoi? On dit que le vieux, il cherche le mouvement perpétuel. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le mouvement perpétuel? Je l'ai trouvé, moi, le mouvement perpétuel. C'est-y point que je me remue pas tout le temps, jamais une minute de repos pour le pauvre monde. Mais si c'est ok, le père Norbert, s'il est ok, est-ce que les deux autres devraient pas avoir de la raison pour lui? Ma parole, le médecin, il paraît aussi maboule dans son petit laboratoire au fond du jardin que le vieux et la demoiselle dans leur atelier. Je le disais encore tout à l'heure à cette bonne mademoiselle Maresca, quand il sort de là-dedans au matin que j'arrive et qu'il court à son amphithéâtre, c'est lui qui a une figure de macabre. À quoi donc il a passé la nuit? Quant à la demoiselle, par exemple, elle a toujours l'air de se promener dans le paradis. Elle passe auprès de vous comme si on n'était pas plus qu'une puce. Tout de même, depuis 2 jours, je lui ai vu les yeux rouges. Voyez-vous, monsieur Bénédic, cette maison-là me fait peur. J'ai eu bien souvent envie de puis y retourner. Sans mademoiselle Maresca, qui est aussi curieuse que moi, il y a beau temps que je leur aurais tiré ma révérence. C'est dans l'arrière-boutique de mademoiselle Maresca, la mercière, centre de tous les potins du quartier, que cette conversation a eu lieu. C'est là que je suis venu trouver, sous un prétexte quelconque, la mère Langlois. Le bavardage de ces deux femmes me paraît redoutable pour les autres. Mademoiselle Maresca écoute la mère Langlois en hochant la tête et en caressant son chat. Pour rien au monde, mademoiselle Maresca ne consentirait à se séparer de son chat. La mort seule peut les désunir, mais l'absence ne les séparera jamais. Ils reçoivent toutes les confidences de compagnie, reconduisant les gens à la porte, et restés seuls, trament de petits complots qui peuvent conduire les personnages les plus tranquilles au déménagement ou au suicide. Tout de même, j'essaie de me rassurer. Les propos chez la mercière ne dépassent point la limite ordinaire du commérage. Enfin, je fais une déclaration destinée dans mon petit esprit à apaiser les inquiétudes de madame Langlois. Ben, l'imagination est une belle chose, madame Langlois. Elle parle les intelligences les plus ternes et donne à votre conversation en particulier une couleur que j'apprécie. Car j'ai toujours aimé les contes qui font un peu peur, et à ce point de vue, je suis resté très enfant. Ainsi, je ne me lasserai point de vous entendre parler du vieux Norbert, de son neveu et de sa fille, et de l'étrange existence qu'il mène. Enfin, je ne vous cacherai rien en vous disant que c'est beaucoup à cause de vos histoires que j'ai pénétré si brusquement dans le jardin défendu, et que j'ai gravi avec tant de hâte l'escalier qui conduit à l'atelier mystérieux. La vérité me force à vous dire, madame Langlois, que je n'ai rien trouvé chez les Norbert qui pût justifier l'angoisse avec laquelle vous servez ces braves gens. L'atelier n'a rien que de très banal, j'en ai vu 20 comme celui-là dans ma vie. Eh bien alors, m'interrompit-elle en lançant à mademoiselle Baresca un coup d'œil sournois, pourquoi ils en font un pareil mystère, qui veut seulement point que j'aille fiche un coup de balai? Oh, les artistes ont de ces lubies, fiche. Ouais, je vois que les artistes aiment la poussière. Mais c'est d'autant plus incompréhensible que la belle Christine est toujours propre comme un sou neuf. Ah, c'est pas elle qui balaye, bien sûr. Tenez, il n'y a qu'un homme dans l'atelier, en dehors bien entendu du vieux Norbert et de son neveu. Oh, c'était il y a de cela 2 mois. J'en ai parlé à mademoiselle Baresca. Oh, un drôle de type, il était habillé avec un manteau qui l'enfermait des pieds à la tête et il avait des bottes. Eh bien, vous voyez qu'ils reçoivent des étrangers, dis-je en essayant de conserver à ma voix le ton le plus naturel, bien que je fus singulièrement ému par la dernière déclaration de la femme de ménage. Pour étranger, oui, ça se pourrait bien qu'il soit étranger. Il en avait l'air. On s'habille plus comme ça chez nous. Il avait un chapeau noir à boucle, comme on en voit au cinéma, dans les drames du temps de la Révolution. Ma foi, on aurait dit un comédien. Un beau garçon, on dirait. Mais j'ai pas eu le temps de le voir beaucoup. C'était un après-midi où j'étais venu par hasard et comme il ne m'attendait pas. Oh, ils l'ont fait filer tout de suite. Il était assis dans le jardin. Mademoiselle Christine l'a entraîné dardard dans l'atelier. Le neveu les a suivis là-haut. Quant au vieux, il m'avait déjà saisi par le poignet, me ramenait dans sa boutique et j'aurais toujours dans l'oreille le ton sur lequel il m'a demandé. Eh bien, que voulez-vous, mère Langlois? Et là-dessus, quel coup d'œil! Alors je lui ai répondu, oh, je vous demande bien pardon de vous avoir dérangé, monsieur Norbert. Je savais pas que vous aviez de la visite. Il a grogné, je sais quoi, de ses dents. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et j'ai fichu le camp. Vous vous en rappelez, mademoiselle Baresca? Oh, si mademoiselle Baresca s'en rappelait. Le chat aussi avait l'air de s'en rappeler. Ils ronronnaient tous deux en signe d'assentiment, l'une caressant l'autre. Ah, nous avons même attendu qu'il ressorte, mais il n'est pas ressorti, ajouta la mère Langlois. Et cet homme-là, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai même jamais vu entrer, exprima la mercière en faisant glisser ses lunettes sur son front et en me fixant de ses yeux couleur de poussière. Alors, je dis... Ah, je sais de qui vous voulez parler. C'est un ami de la famille. Moi, je l'ai vu entrer quelquefois. Et je me rappelle très bien l'avoir vu sortir il y a 2 mois environ, vers les 10 heures du soir. Je mens. Je me fais leur complice. Je veux la sauver. Mais quoi qu'elle ait fait, quoi qu'ils aient fait. Je passe une fin de journée assez trouble. J'essaie de ramener ma pensée autour du drame dont j'ai été le témoin, de l'éclairer aux quelques lueurs des propos entendus chez la mercière. Enfin, il y a 2 mois, Gabriel était déjà dans la maison de l'horloger. Et je n'en savais rien. Et il avait toute la famille autour de lui. Christine ne le recevait donc pas en cachette? Non, mais elle le gardait en cachette dans l'armoire, dame. Évidemment, dame. Les autres le croyaient parti. et il était dans l'armoire. Tout cela est bien extraordinaire, car enfin, il n'était pas depuis 2 mois dans ce meuble quand on l'a assassiné. Comment a-t-il échappé à l'attention soutenue, l'espionnage continuel de la mercière, de la femme de ménage et de moi, Bénédicte Masson, toujours à l'affût derrière mes rideaux? Quand je me rappelle la scène atroce, en vérité, je suis bien obligé de considérer que les deux hommes n'ont pas été absolument surpris par l'événement. Les paroles du père, qui depuis chantent à mon oreille une singulière musique à laquelle je m'efforce en vain de donner un sens, attestent bien ceci, au moins qu'il n'était pas absolument surpris de trouver sa fille en compagnie du mystérieux visiteur. Il ne m'obéissait plus et c'était de ta faute. J'aurais dû m'en douter. Quelle parole bizarre dans un pareil moment. Tandis que Christine est perdue, suppliant le vieux. « Oh, ne le tue pas, ne le tue pas !» Et le vieux l'avait tué tout de même. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce parce qu'il l'avait trouvé avec sa fille? Est-ce parce qu'il ne lui obéissait plus? Peut-être à cause des deux choses. Mais en quoi l'autre ne lui obéissait plus? Qu'est-ce que le vieux exigeait de ce malheureux jeune homme que j'ai vu massacrer avec une furie si soudaine? Quant au fiancé, il devait savoir aussi, lui, de quoi il retournait, car si quelqu'un conserva son sang-froid dans cette affaire, ce fut bien lui. Norbert, après avoir tué, avait l'air d'un fou. Christine poussait les soupirs à rendre l'âme, mais lui, Jacques Cotentin, avait ramassé le cadavre sans émoi apparent et l'avait poussé dans l'atelier sans dire un mot. Et maintenant, mais qu'ont-ils fait du cadavre? Ils ne l'ont pas encore enfoui dans le jardin. Hein, ce sera peut-être pour cette nuit. Je passerai la nuit à ma lucarne. J'ai le pressentiment que cette nuit, je verrai quelque chose. Les deux hommes ont l'air trop préoccupés. Je devine bien ce qui les gêne. La rouge goutte de sang pèse plus que la mer en colère. Lady Macbeth en a fait l'expérience avant mes voisins de l'île Saint-Louis. Cette nuit-là, oui, cette nuit-là, pèsera encore sur ma mémoire, nuit lourde avec ses nuages de suie, son eau de plomb, car il a plu un peu. Il a plu des larmes brûlantes et des lueurs de soufre. C'est par cette nuit-là que la Vierge s'est encore levée, m'est encore apparue avec son harmonieuse douleur. C'est de Christine que je parle. Pourquoi ne continuerais-je pas à l'appeler la Vierge? Parce que mes yeux ont vu. Ont vu quoi? Est-ce que je sais ce que mes yeux ont vu? Est-ce qu'ils le savent? Toute réflexion faite, on peut cacher un monsieur dans une armoire et rester pur. Il me plaît de penser cela. Je trouve Bouburoche sublime et plus intéressant que tous les sganarelles qui rient au parterre. Il me plaît que l'affreux drame, dont j'ignore tout, n'est pas diminué ma divinité. Écoutez, écoutez bien ceci. Moi aussi, j'ai mon drame, dont j'ignore tout également, un drame qui m'étreint de ses tentacules invisibles, mais qui peu à peu finiront par sucer toute ma pensée. Un drame au bout duquel, si le hasard le veut, il y a peut-être l'échafaud. Et cependant, moi aussi, je suis pur. Seigneur Dieu, ne jugeons personne. Ayons peur des formes que prennent les choses en nous frôlant. et ne disons point tout haut, avec le triste orgueil de la créature qui ne dispose que de ses cinq sens, ceci est ou ceci n'est pas. Méfions-nous, méfions-nous, l'univers est autour de nous comme une immense embûche. D'autres avant moi ont prononcé le mot « farce ». Je n'irai pas jusqu'à ce mot-là tant que je croirai en Christine. La nuit est si lourde et si basse autour de l'île que celle-ci semble plus isolée que jamais de la ville. Elle est comme sous une cloche qui m'étouffe. C'est à peine si je puis respirer. Tout d'un coup, j'ai entendu la voix qui remplissait l'effrayant silence. C'est la première fois que j'entends sa voix à celle des distances, et peut-être après tout, me suis-je imaginé l'avoir entendue. Non, non, c'est bien elle qui a prononcé ces mots. Je n'aurais pas pu les inventer. Je veux dire que je n'avais aucune raison pour les inventer. C'étaient des mots très simples. Elle disait « Au revoir, Gabriel ». Elle ne bougeait pas. Elle était sur le balcon. Sa voix remplissait solennellement l'air si lourd, la nuit soufflée. Et devant elle passa le cortège. C'était le vieux Norbert et son neveu qui portaient roulé dans une couverture le cadavre. L'armoire était ouverte derrière eux. Ainsi, j'avais bien deviné. Le cadavre était encore là quand j'étais monté dans l'atelier. Eh bien, cette Christine est surhumaine, non ? Non, tu n'es pas une poupée sans cœur, ô céleste créature. Maintenant que j'ai entendu ta voix d'or dans cette affreuse nuit de silence, ta voix qui disait « au revoir » aux restes ensanglantés de l'un des plus beaux fils des hommes, j'ai compris ton impassibilité de statue. Au revoir, tu es donc décidé à le rejoindre au fond de cet inconnu où il y a promesse d'union des âmes, mais où peut-être aussi règne le grand Pan de jadis, revêtu de sa peau de léopard, aux païennes Christine. Disparais donc, et moi aussi, je disparaîtrai de cette terre, au sein de laquelle j'ai hâte de déposer mon abominable défroque. Je voudrais être ce cadavre que tu pleures, et qu'il descende dans le jardin. Toi, tu n'as pas voulu en voir davantage, et tu t'es redressé dans la nuit jaune, et tu as disparu, tandis qu'il s'enfonçait dans le puits d'ombre. Mais rien ne remue plus au fond de l'ombre. S'il creusait une fosse, je verrais leurs gestes noirs. Le rez-de-chaussée du pavillon a toujours été pour moi quelque chose d'obscur et de mal défini. Trois portes étroites et cintrées donnant sur le jardin et ne s'ouvrant jamais, toutes clouées de planches. Deux fenêtres, une à chaque extrémité, bouchaient le persienne. Deux ou trois fois, pendant ma faction, il y a eu comme un éclair intérieur qui traversait tout cela, comme une immense étincelle électrique entreaperçue par les interstices des cloisons mal jointes, et puis tout retombait à la nuit. C'est là que le neveu travaille, quand il n'est pas renfermé là-haut dans l'atelier avec Christine et le vieux Norbert. Sans doute doit-il se livrer à des expériences de radiographie. De nos jours, il n'y a plus de médecin ni de chirurgien sans électricité. Je sais aussi, par les bavardages de Madame Langlois, qu'à ce rez-de-chaussée à droite, il y a un immense fourneau avec toutes sortes d'instruments, de cornues, de ballons de verre. comme dans les laboratoires de sorciers du temps jadis, au cinéma. Et cette nuit, à travers les persiennes, c'est de là que vient la lueur, et non pas un étincellement électrique, mais une lueur de flamme ardente qui semble intérieurement lécher les murs et puis qui s'éteint tout d'un coup pour reprendre soudain et s'éteindre encore. Combustion bizarre, désordonnée, activée sans doute par le jet de quelque liquide inflammable. Et puis tout à coup, au-dessus du toit, dans la nuit jaune et basse, bouillonne un tourbillon sombre, épais, funèbre, qui hésite dans la direction à suivre et finalement s'étale sur l'île, rabat ses scories jusque sur les quais déserts, nous enveloppe d'un voile de deuil sinistre en même temps que d'une atmosphère inquiétante où persiste une horrifiante odeur. Oh, les imprudents! Chapitre 5. Tu viens t'asseoir et tu lances des œillades de minots d'hier. Mercredi. Bon, Christine n'est pas morte de désespoir. Elle est dans mon atelier et bien vivante, je vous l'assure. C'est vraiment gentil à elle d'être venue me rassurer, car c'est bien pour moi, cette fois, qu'elle a franchi mon seuil, comme si elle avait deviné que sa présence seule pouvait calmer mon angoisse, comme si elle savait que je savais. Elle est venue, mais d'où veut-elle en venir? Où veut-elle en revenir? Elle est pleine de grâce et sa toilette est charmante. Une nouvelle robe de printemps, qu'elle s'est confectionnée elle-même assurément, mais avec ses doigts d'artiste et qui ne prévoyait pas le deuil. Ce qu'une jolie fille peut faire avec du linon blanc et bleu et un peu de broderie, au point de croire. Certes, ce n'est point à mon intention que cette robe a été faite, mais je ne saurais douter que c'est pour moi qu'on l'a mise. Si vraiment son cœur est en deuil, ce vêtement de clarté est bien redoutable. Quel est donc son dessein pour que Christine soit coquette avec le monstre? Question à laquelle j'essaie de me raccrocher éperdument pour ne point perdre pied à ce nouveau tournant de l'inexplicable aventure. Et puis j'abandonne ma question, je lâche tout, et je me sens tourné au fond du gouffre, heureux, affreusement, de m'y enfoncer pour elle, sous son regard qui me sourit, qui a besoin de moi, car elle ne serait pas là avec toute sa coquetterie si elle n'avait pas besoin de moi dans son crime. Qu'elle fasse de moi ce qu'elle voudra, je suis prêt à prendre toutes les responsabilités. Je ne saurais concevoir que le moindre danger menace cet admirable enfant dont les longues mains nues jouent entre les pages de Verlaine. Pour qui, comme moi, a regardé passer pendant plus de 2 ans cette méprisante archiduchesse, il faut qu'il se soit produit quelque chose de fabuleux pour que cette grâce minaudière soit venue s'asseoir en face de moi, devant mon comptoir. Ce crime, je le bénis, et cette horrible odeur qui me faisait râler cette nuit sous mon toit, la maudite odeur de l'Holocauste qui devait me poursuivre toute la vie, je la sens déjà plus, car son parfum à elle est venu. Ah, l'odeur de sa chair vivante et nue sous les linons cerclés de petits points de croix. La vie est plus forte que la mort. Va, mon enfant, parle. Ah, attends un peu. D'abord, je vais envoyer en course l'apprenti qui rôde en reniflant comme un phoque au fond de l'escalier. Et puis, je vais fermer la porte pour que la rue n'entre pas chez nous. Car la rue est chez moi. Voilà une histoire qui fournira l'éveillé de l'île. Le museau pointu de Mademoiselle Maresca s'est avancé entre les hublots inquiétants de ses lunettes et sous l'arc de triomphe de son bonnet tuyauté. La face plate de la mère Langlois reflète un coucher de soleil là-bas, à l'horizon borné par la boutique de la charcutière. Derrière les vitres, les rideaux frémissent sous d'agiles mitaines. Monsieur, je viens à vous comme à un ami. J'essaie de sourire. Un ami, mais vous ne me connaissez pas. Oh si, monsieur, je vous connais. D'abord, vous êtes mon voisin. Depuis des années, comme je suis curieuse, j'ai voulu savoir qui était mon voisin. Un pauvre relieur, mademoiselle. Un grand poète, monsieur. Je n'ai pas branché. Mon silence ne l'a pas embarrassé le moins du monde. Elle a appuyé son coude d'ivoire, car les manches de cette blouse de linon sont très courtes, sur les volumes qui traînaient devant elle, a posé doucement sa tête adorable sur les pétales de sa main que ne déshonorait aucun bijou, et en me regardant, elle prononça « Dédié à celle qui passe. Pour l'amour de Dieu, ne remue pas les sourcils quand tu passes près de moi. Que ton regard reste glacé dans son lac immobile. Les minauderies de tes yeux, si tu voulais, boire le sang de bien les gens. Au nom de ta jeunesse, douce aimée, ne me fais pas pleurer. Je suis orphelin, je suis enfant. Rien ne pourrait me retenir. Ne m'attire pas dans ton feu. Ton amour m'a rendu pareil aux nuages, déchiré par l'orage. » « Ah, c'est !» interrompis-je, dans une agitation qui touchait à l'attaque de nerfs. « Ah, c'est ! Non, ce sont de très mauvais vers. Vous oubliez que si la reliure qui les paraît à la dernière exposition des maîtres a obtenu le prix, eux n'en ont eu aucun succès. Ce qui est justice, car après tout, il n'était signé d'aucun nom connu. » Mais n'était pas signé du tout, laissa-t-elle tomber, sans s'émouvoir autrement, de l'état où elle me voyait. Mais j'ai bien pensé qu'ils étaient de vous. Je pâlis atrocement, sans oser la regarder. À l'ivresse de tout à l'heure succédait une rage qui m'étouffait. Sans aucun doute, cette fille se moquait de moi. Et avec quelle tranquille audace! Enfin, je pus m'exprimer, et je lui jetai. « Vous êtes cruel. Du reste, j'ai toujours pensé que vous étiez trop belle pour n'être point la cruauté même, et peut-être sans que vous vous en doutiez, ce qui est votre seule excuse. « Continuez donc, » fit-elle lentement, « je ne suis point venu chercher ici des compliments. »« Qu'êtes-vous venu chercher ?» Ces mots terribles, j'aurais voulu les rattraper, mais j'étais comme forcené. Et ainsi qu'il arrive aux plus timides, quand ils donnent un essor inattendu à leur hardiesse, je perdis toute mesure. Sans attendre sa réponse, je l'accablais de reproches stupides, comme si elle m'avait donné quelque droit sur elle, par sa conduite antérieure vis-à-vis de moi. « Eh bien oui, j'ai fait des vers, mais pour moi tout seul, et il n'appartenait à personne au monde, pas même à celle, de venir railler ma solitude et ma détresse. Vous prétendez me connaître, lui dis-je encore. Et vous n'avez rien trouvé de mieux avant de pénétrer ici que de prendre pour complice ma vanité d'auteur. Si vous soupçonniez le mépris que j'ai pour moi et pour les autres, pour tous les autres, vous vous seriez abstenu d'apprendre par cœur un méchant sonnet que j'avais depuis longtemps oublié. Elle ne broncha pas, mais quand j'eus fini, elle se remit tranquillement à dire de mes vers et même de ma prose, qui est assez rare. Ouh, mais dans quelle boîte sur les quais avait-elle pu dénicher les misérables opuscules? Elle connaissait toute mon œuvre, ma pauvre, déchirante, blasphématoire, attendrissante, révoltante œuvre, aussi bien que moi, mieux que moi, car sa façon de dire attestait qu'elle ajoutait quelquefois un sens supérieur à un texte dont toute la valeur ne m'était pas encore apparue. Décidément, l'intelligence de Christine est prodigieuse. Je dis cela naïvement, sincèrement, parce que je suis très difficile à comprendre et qu'elle est à peu près la seule à m'avoir compris. En tout cas, je suis anéanti devant cette révélation. Depuis un temps que je ne saurais apprécier, cette fille qui passait près de moi, sans me regarder jamais, vivait avec mes pensées. Mais pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour me révéler cela? Pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier? Sans doute lit-elle en moi comme en un livre, car elle répond sans plus tarder. Monsieur, vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'êtes-vous venu chercher? Monsieur, je suis venu vous demander un grand service. Mon père, mon cousin et moi, nous traversons en ce moment une crise atroce. Ah, ah, pensais-je encore, nous y voilà. Elle sait que je sais, que j'ai vu. Elle éprouve le besoin de s'expliquer. Elle plie sous la nécessité d'entrer en pourparlers avec le voisin d'en face. Quel mensonge vais-je encore entendre? Oui, atroce, répéta-t-elle. Elle baissa la tête et ses yeux me quittèrent et la salle se remplit d'une ombre opaque. Nous sommes ruinés. Nous avons mangé depuis longtemps l'héritage de ma mère. Ce que nous gagnons est insignifiant. Monsieur, je vois sur ce rayon derrière vous les études philosophiques de Balzac. Avez-vous lu La recherche de l'absolu? Oui, naturellement, vous l'avez lu. Je ne sais si vous êtes de mon avis, mais j'estime que ce roman est, avec Louis Lambert, la plus belle œuvre de Balzac, la plus noble et aussi la plus dramatique. Quoi de plus angoissant, en vérité, que le sort de cette famille bourgeoise et prospère est peu à peu ruiné par l'idée de génie. Rien ne résiste à la folie sublime de l'inventeur, et les enfants sont obligés de subir la débâcle du vieux Claes, comme... Vous m'avez compris, monsieur? Seulement, en ce qui concerne l'horloger Norbert de l'île Saint-Louis, il y a une petite différence. Les enfants du héros de Balzac ne croient pas à son génie, sa femme non plus du reste, et elle n'en apparaît que plus touchante dans son dévouement. Tandis que les enfants de Norbert, je veux parler de son pupille et de moi, monsieur, ont la foi la plus absolue dans l'idée et n'auraient pas hésité, si cela avait été nécessaire, à mettre leur père sur la paille dans le cas où il eût hésité. Matin, fis-je, tout cela pour le mouvement perpétuel. Pour cela ou pour autre chose, monsieur? Oh, ne me croyez pas indiscret, je savais qu'en vous parlant du mouvement perpétuel, je ne vous apprendrai rien des bruits qui courent dans les arrière-boutiques du quartier. Christine releva la tête et sourit. Tout fut de nouveau illuminé à Giorno. Reparlons sérieusement, je vous prie, sur la paille, nous le sommes donc. Et je vais vous dire tout de suite de quoi nous vivons. Je vous ai déjà prouvé que je vous connaissais mieux que vous ne l'imaginiez. Je vais vous prouver maintenant que je vous considère comme un ami. Et sa figure devint extraordinairement grave. Oui, je vais vous parler comme à un ami, comme à un frère. C'est cela, je m'y attendais, comme à un frère. C'est toujours comme à un frère que ces dames me parlent. Nous sommes à l'entière disposition de notre propriétaire, le marquis de Coulteret. Nous lui devons plusieurs termes. Il peut, si bon lui semble, nous mettre à la porte demain. S'il ne le fait pas, c'est à cause de moi. Le marquis de Coulteret me fait la cour. Comment encore un? Elle est venue me voir pour me dire cela. Oh, il me semble que la madone de l'île Saint-Louis est bien occupée entre son fiancé, le cadavre de son Gabriel, son marquis et son frère, le relieur d'art de l'île Saint-Louis. Oh, Christine, énigme de plus en plus indéchiffrable. Oui, il me fait une cour très convenable, du moins jusqu'à présent. Ma présence chez lui lui plaît. Il prétend même qu'elle lui est nécessaire. Je passe quelques heures tous les jours dans son hôtel, sous prétexte de petits travaux à effectuer, des étains, de la ferronnerie pour de vieux lutrins, des ciselures pour antiphonaires. Sa bibliothèque est unique, vous verrez. Ah, je verrai cela, fis-je, pour dire quelque chose, et d'un air tout à fait désemparé. Mon Dieu, oui, du moins, je l'espère, sans quoi il n'y aurait aucune raison pour que je vienne vous faire de telles confidences. Bien, bien, je vous écoute, continuez. À l'extrémité de cette bibliothèque se trouve une petite pièce de quelques mètres carrés que le marquis a fait transformer pour moi en atelier et qui vous servira à vous aussi si, mon Dieu, si vous le voulez bien, si vous consentez à donner une suite à ma proposition de l'autre jour. Monsieur Bénédicte m'a songé. Confiance en vous. Je vous dis tout. Oh, ce que les femmes peuvent mentir. Venez à mon secours. Si je romps avec le marquis, non seulement je perds la petite pension qui nous fait vivre, mais je suis sûr qu'il n'hésitera pas à nous mettre à la porte. Or, nous ne pouvons quitter notre domicile de l'île Saint-Louis sans une véritable catastrophe. Là-dessus, un silence. Cette fois, nous y voilà. Il est toujours dangereux de quitter un endroit encore tout chaud d'un assassinat. Un cadavre laisse souvent des traces, même quand on l'a fait passer par un poêle. La chronique judiciaire ne nous en apporte que trop d'exemples. Ainsi, pensais-je, car enfin, pendant qu'elle m'entretenait de cette nouvelle histoire, à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne songeais qu'au drame, moi, que j'avais vu, et dont on avait l'air de ne plus se ressouvenir. Mais, comme m'ont dit au palais, nous allons entrer dans le vif du débat, si tant est que l'on puisse exprimer ainsi en parlant d'un mort. Eh bien, je me suis encore trompé. Gabriel, ni de près ni de loin, ne fera les frais de cette conversation. Christine, en effet, continue, attristée. Oui, une véritable catastrophe pour nos travaux. Nous ne pouvons les transporter ailleurs. Cela est impossible matériellement et financièrement. Ce serait la fin de tout. Ce serait la fin de trois vies et peut-être davantage. Alors, c'est bien vu, bien entendu. De Gabrielle, pas question. Elle s'imagine que je ne sais rien. Tout de même, elle sait, elle, et cela ne semble aucunement la préoccuper. Après tout, qu'est-ce que je m'imagine? Elle ne pense peut-être qu'à cela, avec sa figure vermeille et cette parure de clarté. Alors un monstre? Pourquoi pas? Avec elle, je navigue du ciel à l'enfer avec une rapidité d'onde hertzienne. Nous sommes deux monstres, bien faits pour nous entendre. Si je vous comprends bien, vous me demandez d'accepter tout de suite d'être quelque chose comme le bibliothécaire relieur de M. le Marquis de Coulteray. Et cela parce que vous craignez de rester seul avec lui. Oui, c'est cela, monsieur. Vous voyez la confiance. Parfaitement, la confiance. La confiance. Compris, mais le marquis, lui, ne pourra me voir venir que comme un ennemi. Ah non, non, car j'ai posé mes conditions. Il vaut mieux que vous sachiez tout. Je voulais partir, enfin, je faisais celle qui voulait partir, ne plus revenir chez lui. Il m'avait dit des choses qui m'avaient déplu. Il est très grand seigneur, extrêmement poli, et parfois incroyablement audacieux. Il a pu croire que je ne reviendrai plus, et il m'a supplié. Et je lui ai dit que je ne resterai que si désormais il y avait un tiers entre nous. Il a accepté. La chose s'est passée tout récemment, ce matin même. Et je suis venu vous voir. J'ai pensé à vous tout de suite. Oui, comme un vieil ami, comme un frère, je sais. Mais la marquise, demandai-je tout à coup, qu'est-ce qu'elle fait dans tout cela? Oh, dans tout cela, répondit Christine en fronçant ses beaux sourcils. Dans tout cela, la marquise m'a supplié de rester elle aussi. C'est toujours ainsi, pensais-je. Chapitre 6. La marquise de Coulteray. Christine me conduira où elle voudra. J'accepte tout ce qu'elle me propose. Je suis le dernier des lâches, car maintenant, je sais pourquoi elle est venue me trouver, elle, et pourquoi il me subira auprès d'elle, lui. Je suis laid. Je le crois bien qu'ils ont pensé à moi tout de suite, quand la nécessité de mettre un tiers dans leur intimité leur est apparue. Ne suis-je pas le tiers idéal? Ni l'un ni l'autre n'auront rien à craindre de mes entreprises, pensent-ils, mais entre nous. Le monstre n'aime pas qu'on le taquine. Nous allons bien voir. Laissons-nous conduire, puisque je ne puis pas faire autrement. Nous voici tous les deux dans la petite rue qui conduit au quai. La petite rue qui n'est à l'ordinaire qu'un courant d'air et qui, ce matin, est ravagée par un vent qui nettoie furieusement toute l'île des scories de la nuit. Ah, poussière des nuits, l'odeur funèbre, autant t'en emporte le vent. Je ne vois plus, moi, dans le vent que les jambes de Christine, gantées de soie, tapant leurs petits talons Louis XV sur le vieux pavé du roi, sous tes souliers de satin, sous tes charmants pieds de soie, moi, je mets ma grande joie. Mon génie et mon destin. Elle a encore bien grande allure, cette demeure décrépite qui se dresse devant nous dans une ombre fastueuse du passé. L'hôtel Coulteray est assurément, avec l'hôtel Lauzin, l'un des plus beaux de l'île, sinon le plus beau, en tout cas l'un des mieux conservés dans sa vieillotterie, celui qui a été le moins retouché par nos architectes modernes. Nous avons pénétré sous la voûte que ferme l'énorme porte cloutée à double vantail, par un portillon derrière lequel nous avons trouvé un noble vieillard, coiffé d'une casquette galonnée, qui semblait nous attendre. Le portillon rendit derrière nous un bruit sourd et nous entrâmes dans une ombre lourde de plusieurs siècles. Puis ce fut la cour d'honneur que Christine me fit traverser rapidement sur un pavé encadré de mousse où elle était la seule à ne pas chanceler. Elle ne me donna point le temps d'admirer la courbe harmonieuse du perron. Nous étions déjà dans le haut et grand vestibule où nous fûmes accueillis, sortant de je ne sais quelle niche, par une espèce de chat humain dont la figure de bronze poli, trouée de deux yeux énormes de jade, s'enturbanait d'une soie immaculée. Tsing Tsing, me souffla Christine, le petit valet de pied hindou du marquis. Un très joli garçon, et très serviable, un peu encombrant, trop souvent fourré dans vos pattes, ou s'allongeant sur une corniche, se balançant au-dessus d'une porte, histoire de vous faire peur pour rire. Chassez-le en cliquant des mains, comme pour un petit animal qu'il est. Allez, sauve-toi, Sing Sing. Sing Sing nous quitte et, en trois bonds, va rejoindre une sorte de niche rembourrée qui tient de la corbeille et de la guérite où, sous des couvertures, il attend des ordres en méditant ses petites farces. Christine a poussé une porte. Nous traversons plusieurs salons aux incomparables boiseries, aux vieilles dorures, aux meubles garnis de housses, laissant passer leurs pieds écaillés. Ah, glorieux passé, glorieux et intact passé. Mais pourquoi tout à coup surgit, dans le cadre d'une porte au trumeau Louis XV, cette statue du Pendjab, cet Hercule indien qui froidement nous salue en nous ouvrant d'un geste auguste la porte de la bibliothèque? Ah, celui-ci, dit Christine, c'est Sangor, le premier valet de chambre du marquis, son domestique de confiance. Sangor le fait un peu à la divinité. Il a toujours l'air de sortir d'une conférence avec Bouddha. Et il vous apporte un verre d'eau sucrée, comme s'il vous faisait présent de tous les trésors de Golconde. Faire bien attention à lui. On le prendrait facilement pour une brute, et je le crois très intelligent. On ne sait jamais s'il vous comprend, mais il vous devine. Avec cela, fort comme une cariatide. Mais il n'y a donc que des domestiques indiens ici? Non, non, vous avez déjà vu le portier, il est français. Oui, c'est le seul, la domesticité de la marquise est anglaise. Les gens du marquis sont indiens. Vous savez qu'il s'est marié là-bas, en Hindoustan. Oui, je le sais, mais dites-moi, elle est prodigieuse, cette bibliothèque, vous n'avez rien exagéré. Je n'exagère jamais rien. Dans cette bibliothèque pâle, pâle, au vieux bois effacé, aux moulures effritées, derrière des treillis dorés et légers, comme les premiers enlacements d'une corbeille destinée au boudoir d'une coquette, il y avait là des milliers et des milliers de volumes dans leur reliure centenaire. Sur les tables, sur les lutrins, je soupçonnais du premier coup d'œil des merveilles. « vous verrez, me dit Christine. Il y a là des livres sans prix, des autographes rarissimes, comme n'en possède pas l'arsenal. Tenez, dans ce coffret fleur-de-lysée, voici le livre d'heures de Blanche de Castille qu'elle légua à son petit saint de fils. Lisez. C'est le psautier de Monseigneur Loïs, lequel fut à sa mère. Il provient des trésors dispersés de la Sainte-Chapelle. Puis la Bible de Charles V, pourtant de la main même du roi, ce livre à moi, roi de France, et ce missel, dont chaque feuille est encadrée d'une incomparable guirlande, due au pinceau du maître aux fleurs, ce grand artiste dont on ignore le nom. Ah, cher relieur d'art, mon voisin, quel trésor pour vous ici, quelles inspirations! Et voici encore dans ce coffret la lettre d'amour de Henri IV embrassant 1 million émigrés qu'Elioène de fois la marquise de Verneuil. Le marquis veut faire un recueil d'autographes s'il trouve un relieur digne de les réunir. Tenez-vous bien, monsieur Bénédicte Masson. J'étais transporté. Ah, il n'y avait plus en moi que l'artiste. L'amoureux lui-même semblait avoir fui. Quand tout à coup, dans cette grande pièce pâle, où glissait une lumière avare, je sentis que le drame, que j'avais oublié à l'instant, pénétrait avec cette figure de rêve, emmitouflée de fourrure blanche, qui s'acheminait vers nous. Quel drame! Celui d'à côté que j'avais vu en partie se dérouler sous mes yeux, celui d'ici que je ne connaissais pas encore, peut-être bien les deux à la fois. Oui, quand je me rappelle cette première heure singulière passée dans le vieil hôtel des Coulterets, ce qui domine en moi, c'est l'impression que l'un de ces drames pourrait peut-être un jour s'expliquer par l'autre, en tout cas, qui n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, et que ce mur, bâti jadis pour séparer l'antique demeure, ne séparait plus rien du tout depuis que Christine en faisait si facilement le tour. Qu'y avait-il de vrai dans tout ce qu'elle m'avait rappelé le matin même? J'allais peut-être le savoir de la bouche de ce fantôme pâle qui s'avançait vers nous. C'était la marquise. Je l'avais reconnue, bien qu'elle m'apparût encore plus exsangue que lorsque je l'avais vue pour la première fois. Son apparition me plongea immédiatement dans cette indéfinissable rêverie que nous cause une musique douce et triste, apportée à nos oreilles par une brise lointaine, à travers un grand silence. Mais quel souffle de l'au-delà soulevait cette fragile image. Autant Christine semblait la réalisation idéale de la vie par sa ressemblance avec les plus suaves figures de la Renaissance italienne, autant le visage de la marquise avait un air de songe aux transparences si délicates qu'on eût craint de les profaner par l'examen. Je ne me lassais pas de regarder Christine, mais devant cette langoureuse lady, on ne pouvait que baisser les yeux, par crainte de l'effleurer, ou peut-être même par pitié, d'autant que cette forme fugitive était éclairée doucement par le triste flambeau d'un regard plein d'inquiétude et de douleur. Je pus constater tout de suite que j'étais attendu, car Christine ne m'eut pas plutôt présenté que la marquise me remercia presque avec effusion d'être venue, et assez hâtivement du reste, comme si elle eût craint d'être surprise. D'une voix qui rappelait le pépiment craintif d'un petit oiseau tombé du nid, elle me dit « Mademoiselle Norbert nous a parlé de vous. Vous êtes le bienvenu. Le marquis a besoin d'un homme comme vous pour ses collections auxquelles il attache un si grand prix. Figurez-vous que Mademoiselle Norbert voulait nous quitter. C'est si triste ici. Elle prendra patience dans la compagnie d'un artiste comme vous. Moi aussi, j'aime les livres. Je viendrai vous voir de temps en temps. Je m'ennuie. Oh, si vous saviez comme je m'ennuie. Il faut me pardonner. J'ai été élevé aux Indes, n'est-ce pas? Il ne faut pas me quitter. Il ne faut pas me quitter. Et là-dessus, elle s'en alla, ou plutôt se sauva, disparut au bout de la pièce, comme si elle passait à travers les murs en répétant ces mots. « Il ne faut pas me quitter. » Christine ne m'avait donc pas menti. Et c'était peut-être moins pour le marquis que pour la marquise qu'elle restait, et par charité, si elle avait mené une véritable intrigue avec cet homme, elle ne m'en eût pas certainement averti. Elle murmura. Pauvre femme. Nous restâmes un instant silencieux. À travers la vitre, je regardais le jardin qui s'étendait derrière l'hôtel et qui me parut un peu négligé, ce qui n'était point pour me déplaire. L'été tout proche paraissait déjà un vainqueur dans le fouillis de verdure et la libre éclosion des fleurs. Je me tournai vers Christine. La santé de la marquise me paraît bien précaire. Elle me répondit en appuyant son front à la vitre, « Cela dépend des jours. Parfois, on la croirait près d'expirer, et puis, avec quelques bons jus de viande, elle reprend des forces. Elle paraît normale à l'heure. »« Comment normale? Que voulez-vous dire ?»« Rien, seulement, je crois que la marquise a beaucoup d'imagination. Oui, il y a des jours où elle se croit plus malade qu'elle ne l'est. Et cela suffit pour qu'elle le devienne tout à fait. » Et, sans transition, Christine continua. « Ah, monsieur Masson, je voulais vous dire une chose. Vous voyez cette petite porte là-bas, au fond du jardin? Elle donne sur la rue que nous avons suivie pour venir jusqu'ici. » Elle est à quelque 50 mètres de chez vous. Il vous serait donc beaucoup plus commode de venir directement par ici, vers cette porte et d'entrer par la porte de la bibliothèque qui donne sur le jardin, que de faire le tour par la grande entrée et d'avoir à attendre la bonne volonté du Suisse, comme on dit encore ici. Je demanderai donc au marquis qu'il vous en donne la clé. « Et vous croyez que le marquis la donnera à un inconnu ?»« D'abord, vous n'êtes pas un inconnu, et puis le marquis ne refusera pas cette clé, du moment que c'est moi qui la demande pour vous. Seulement, quand vous l'aurez, vous me la donnerez à moi. »« À vous ? Oui, à moi. » »« Oh, n'ouvrez pas ses yeux étonnés. » et qui atteste les plus méchantes pensées. Monsieur Bénédicte Masson, si j'ai besoin de cette clé, ce n'est point pour venir ici en cachette, je vous prie de le croire. C'est pour m'enfuir, si c'est nécessaire. J'en pouvais à peine croire mes oreilles. Ce marquis est donc bien redoutable, fis-je. Vous le verrez. Encore un silence. Je le verrai si je veux, car, enfin, rien encore de décidé, mais cette opinion, je me garde bien de l'exprimer, la jugeant du reste vaine et inutile, à cause du peu de cas que je fais de ma volonté en face de celle de Christine. Cependant, je ne puis dissimuler mon inquiétude. Depuis quelques minutes, la marquise et Christine m'ont promené dans une atmosphère tellement incertaine. La fille de l'horloger comprend mon hésitation. « Oh, il ne se passe pas autre chose ici que ce que je vous ai dit, et qui n'a rien de tout à fait exceptionnel. » « Le marquis, on ne le verra pas ?» Oh, peut-être pas aujourd'hui. J'avais espéré, mais il est encore un peu honteux après la scène de ce matin. Ah, c'est ce matin. Oui, il a voulu m'embrasser. C'est tout ce qu'il a eu de grave entre nous. C'est pardonnable. Comment donc? Et je lui pardonne, mais je prends mes précautions pour l'avenir, voilà tout. Oui, là, la clé est moi. Elle a compris mon égarement. Et alors, il s'est passé cette chose stupéfiante. Elle m'a pris la main et l'a gardée dans la sienne, comme si cette main lui appartenait, d'un geste qui prenait possession définitivement de ma personne, et m'a dit: Soyez mon ami, il y a longtemps que je le désire. Longtemps. Et cependant, quand elle était passée près de moi, pendant des mois, des années, elle n'avait pas remué le sourcil, et son regard était resté glacé dans son lac immobile. Oh, pitié! Pitié, Christine! Ne me fais pas pleurer! Comme disent mes pauvres vers, je suis orphelin, je suis enfant, ne m'attire pas dans ton feu. Rien ne pourrait me retenir et peut-être ne me pardonnerais-tu pas aussi facilement que tu as pardonné au marquis. Alors j'étais sans voix et je n'osais bouger de peur d'une catastrophe, d'une bévue de ma part, d'une maladresse, d'une caresse qui, si humblement se fût-elle présentée, ne pouvait être venant de moi qu'une forme de la brutalité. Oh, j'étais payé, je vous le jure, pour savoir là-dessus à quoi m'en tenir. Ma main dut cependant la brûler car elle la quitta soudain comme on quitte un fer rouge. Cependant, à son geste trop prompt, elle trouva une excuse. La marquise. Moi, je n'avais rien entendu. Les fourrures blanches étaient en effet revenues. Elles étaient derrière nous, enveloppant une figure inquiète et souriante et lointaine, comme un vieux pastel. Vous nous restez, monsieur Bénédicte Masson? Oui, allez, je leur reste. Elles peuvent bien être tranquilles.